Bienvenue sur Parents du Multiple, le podcast des parents de jumeaux, triplés ou plus. Je m'appelle Marion, je suis maman de jumeaux et coach parental. Si tu es parent ou futur parent du multiple, alors tu es au bon endroit. Ici, les parents partagent leur expérience de la grossesse à l'adolescence de leur multiple, ainsi que leurs astuces pratiques avec bonne humeur et bienveillance. Tu peux retrouver plus d'informations et tous les épisodes gratuitement sur le site parentsdumultiple.com. Bonjour à tous, dans cet épisode je reçois Lou qui habite à Cherbourg, à 40 ans et est professeur des écoles. Lou est la maman d'une petite fille de 5 ans et de jumeaux de 2 ans. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeaushop.com. Avec le code multiple 10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Salut Lou.
Bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Très bien, et toi?
Très très bien. Je suis très contente de te recevoir pour parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé, et ce sont du coup la gestion, enfin c'est du coup la gestion des maladies infantiles avec des multiples, parce que c'est vrai que souvent on entend les parents qui ont des jeunes enfants dire « ils sont tout le temps malades, il y a toujours mon enfant, je sais pas, avait la grippe, et maintenant il a la gastro, et maintenant il a le rhume ». Et aujourd'hui on va parler de ça, mais avec des multiples, où du coup bah, ça peut ne jamais s'arrêter, parce qu'il y en a toujours un qui va choper quelque chose. Mais avant ça, on va commencer comme d'habitude avec les questions des parents du multiple. Est-ce que tu es prête?
Je suis prête.
Allez, c'est parti. Première question, pour toi Lou, l'annonce de la grossesse multiple, c'était un coup de joie ou un coup de flip?
Alors ça a été un gros coup de flip, l'angoisse totale. Quand la sage-femme me l'a annoncé, j'ai fondu en larmes. Pour moi, c'était synonyme de grossesse à risque, de prématurité, de césarienne. Et qui plus est, avoir 3 enfants, ça n'avait jamais été dans mes projets. Et donc elle était en train de me faire l'échographie et je ne regardais pas l'écran. J'attendais qu'elle me dise d'abord que tout allait bien. Et quand elle m'a dit « Ah, bah dis donc, c'est la journée. » Alors je lui ai dit « Mais la journée de quoi ?»« Bah, des jumeaux. » Et là, je lui ai dit « Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. » Oh. Et là, bah, voilà, je me suis mise à pleurer. Et elle m'a dit que c'était une réaction normale, que soit les parents explosaient de joie, soit ils pleuraient. Voilà, donc moi, c'était plutôt la version pleurs. Et puis, ça durait peut-être une semaine où vraiment j'ai eu du mal à me faire à l'idée. Et c'est finalement devenu rapidement mon destin, en fait, comme le challenge de ma vie. Et aussi une sorte d'héritage, parce que mon arrière-grand-mère a eu des jumeaux dans les années 20, donc il y a bientôt 100 ans. Et je me suis dit, si elle a réussi à s'en sortir, je devrais y arriver moi aussi.
Ok, voilà. Donc elle t'a donné de la force à distance, quoi.
Oui. Et c'est toujours le cas, quand j'ai des coups de mou, des coups de blues, je pense à elle et je me dis, elle a réussi, je peux le faire.
Elle a réussi dans les années 1920 en plus,
oui,
avec beaucoup
oui.
moins d'aide et de technologie et de trucs comme ça qu'on a nous maintenant. Donc,
voilà.
Ouais. Donc un gros coup de flip pour toi, bah, comme pour beaucoup de personnes. Donc voilà, deuxième question. La phrase qui tue que l'on t'a dite et qui t'a marqué, donc soit elle t'a énervé, soit elle t'a fait rire, mais en tout cas tu t'en souviens.
Alors, ça m'a fait à la fois rire et ça m'a aussi énervée. C'est un jour un rendez-vous chez le médecin, qui n'était pas mon médecin traitant. J'arrive toute seule avec les 3 enfants, parce que les garçons ont 2 ans et ils ont une grande sœur de 5 ans. J'arrive avec les 3 dans le cabinet du médecin. Et là, il me dit « Oh, oh, des jumeaux, oh l'horreur !»
Et... Ah, le médecin te dit ça carrément,
oui,
quoi.
Oui, oui. Et il me dit « Avec ma femme, on a 2 enfants. » On aimerait bien un petit troisième, mais ah non, quand je vois ça, non, on dira pas de troisième. Hein. Oh, quelle horreur. Et il a passé tout le temps qu'on était là, tout le temps de la consultation, à rire nerveusement, en fait, à se dire, oh la pauvre, ah non, jamais ça. Alors j'avais envie
avec
de lui dire,
est-ce que... Avec les petits à côté, en plus.
Avec tous les enfants, oui. J'avais envie de lui dire, est-ce que j'ai une tête à ce point-là qui fait peur, désespérée.
Ok, voilà. Bon, pas très sympa du coup. J'imagine que c'est plutôt une phrase qui t'a un peu énervé sur le... Enfin,
oui,
t'as pas
oui,
forcément
oui.
fait rire.
Quoi. Oui. Ouais.
Alors, la prochaine question, quel a été ton meilleur cadeau de naissance ou que toi tu t'es offert? Ou maintenant que tu y réfléchis, tu te dis, c'est ça que j'aurais dû me faire offrir ou m'offrir, ça m'aurait bien aidé.
Alors, le meilleur cadeau, en tout cas le plus utile, c'était des tipis que ma mère m'avait fabriqués, des tipis en tissu pour éviter les jets de pipi chez les garçons lors du changement de couche. Il y a une partie
Ah
coton à
oui, je
motif
vois.
et une partie éponge. Et alors ça nous a sauvé la vie. Et quand il faut changer deux fois...
Quand t'as dit tipi, j'étais partie sur des grandes cabanes, tu vois.
Dans des toutes petites cabanes qui permettent de ne pas se faire asperger quand on change la couche. Ouais, ça, c'était vraiment très utile.
Ok, donc ça ressemble à des petits cônes en tissu,
oui,
qu'on met du coup sur le sexe des bébés et souvent des garçons pour pas avoir,
oui,
le jet de pipi quand ils sont dans la couche.
Okay. C'est ça.
Et c'est elle qui les avait fait, t'as dit, ou c'est elle qui te,
oui,
les a offert?
Elle les avait fait.
Ok. Alors, ma dernière question. Si tu ne voulais dire qu'une seule phrase aux futurs parents de multiples, ça serait quoi?
Alors, ça serait courage, car c'est une aventure aussi épuisante que géniale. Ça en vaut vraiment la peine et je me dis presque tous les jours que ça vaut le coup d'être vécu quand même. Je suis contente de vivre cette expérience et voilà, je me dis que ce serait passé à côté de quelque chose en fait de pas avoir eu de jumeaux.
Ok, courage, on retiendra ça. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'épisode et on va parler du sujet du jour qui est la gestion des maladies infantiles avec des multiples. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand les enfants sont petits et souvent qu'ils commencent l'école ou qu'ils commencent la crèche ou qu'ils vont chez la nounou, on commence par un petit rhume qui se transforme en bronchite, qui se transforme en otite, etc. On a l'impression que ça n'en finit jamais. Et donc du coup, quand on a deux enfants qui passent par cette étape-là de développer leur système immunitaire en même temps, donc deux ou plus d'enfants, on a des fois l'impression de ne jamais s'en sortir. Et donc Lou, toi tu voulais nous parler de comment tu fais pour gérer toutes ces maladies infantiles au quotidien, donc avec tes trois enfants, tes jumeaux et ton autre enfant. Je te laisse nous raconter ton histoire. Nous raconter ton histoire.
Merci. Donc ce thème me paraissait important parce que en fait les garçons sont tout le temps malades depuis qu'ils ont 6 mois. Donc fois deux, parce que voilà, autant leur sœur n'a jamais été malade, elle n'est jamais malade, donc ça a été une grande découverte pour nous. Mais alors eux, tous les deux, depuis qu'ils ont 6 mois, c'est presque toutes les semaines. Quand ils sont en bonne santé, ça dure maximum une semaine. Donc là, on en profite pour recharger les batteries, reprendre notre respiration avant la prochaine maladie. Après, c'est vrai que ils sont ce qu'on appelle des bébés Covid. Parce que j'étais enceinte en 2020, j'ai porté le masque toute ma grossesse, on n'a presque vu personne. Quand ils sont nés, ça a été pareil, on voyait très peu de monde ou avec des masques. Quand Paul est né, donc Paul c'est celui qui est né en deuxième, il est resté 7 jours en unité kangourou, avec un berceau chauffant, une sonde nasogastrique. Donc on est resté tous les trois à la maternité pendant une semaine après la naissance. Et puis...
Okay.
Les maladies sont vraiment arrivées quand on a fait l'intégration à la maison d'assistante maternelle, à la MAM, où là, ils sont tombés malades au bout d'une semaine. Ils ont tous les deux eu une bronchiolite, une semaine d'hospitalisation. Et depuis cet épisode-là, ils ont des laryngites tous les mois. Alors, les laryngites, c'est les toux, ce qu'on appelle les toux de phoque, très caractéristiques. Ça se manifeste souvent vers 3 heures du matin, en pleine nuit. Et là, il faut avoir le médicament miracle,
sinon,
le
Célestène. Pas drôle.
Bah voilà, sinon c'est pas drôle. Et si on n'a pas le petit médicament qui va bien, ça ne s'arrange pas, quoi. C'est de pire en pire et c'est vraiment très impressionnant.
Du coup, moi j'ai une question. Est-ce que y en a toujours un qui commence par être malade et ensuite le deuxième chope la maladie ou c'est vraiment il tombe en même temps malade et du coup vous avez, je sais pas, 2 semaines d'enfants malades à la maison ou c'est plutôt il y en a un qui commence, il est malade 2 semaines, l'autre au bout d'une semaine il tombe malade donc du coup ça s'étend sur genre 1 mois.
Alors il y en a souvent un, mais pas toujours le même, qui tombe malade et l'autre suit, on va dire, 3-4 jours après. Donc, c'est pas vraiment en même temps, mais bon, ça va encore. Ça dure pas pendant un mois en tout.
Et la grande, du coup, elle l'attrape pas quand
Non.
les virus sont dans la maison?
Non, elle a eu, voilà, peut-être deux angines, une grippe, de gastro, mais rien de. Non, elle n'attrape pas les mêmes maladies qu'eux.
Et donc, du coup, depuis que les jumeaux sont rentrés à la mam, tu disais, ils sont tout le temps malades et tu as une semaine de répit par-ci, par-là, mais ça s'enchaîne vraiment tout
Ah oui.
le temps. Du coup, comment tu gères, toi, au quotidien, sachant que, ben voilà, s'ils sont à la mam, c'est que potentiellement, toi, la journée, tu as prévu de faire d'autres choses que de t'occuper d'enfants malades, qu'il faut aller chez le pédiatre ou chez le médecin, qu'il faut gérer les traitements, etc. Comment ça s'organise, ton quotidien, depuis que les enfants ont 6 mois?
Donc depuis qu'ils ont 6 mois, j'ai repris le travail à temps plein, à 100%. Bon, c'est assez dur parce que je n'ai que 11 demi-journées d'absence par année scolaire pour les 3 enfants. Donc 11 demi-journées, c'est autant dire que là, je les ai déjà utilisées. Heureusement, j'ai la chance d'avoir des collègues très compréhensifs qui me soutiennent. Et je suis en contact avec d'autres mamans de jumeaux, donc on se serre les coudes. Sinon, je crois que la première chose, c'est de lâcher prise, en fait. Se dire, tant pis, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas aller travailler. C'est comme ça, c'est les enfants en premier, leur santé avant tout. Ensuite, concrètement, j'ai pour chacun des garçons une petite feuille récapitulative que j'ai glissée dans leur carnet de santé, avec pour chacun le mois de l'année, leur âge, les maladies, le traitement qu'ils ont eu. Donc j'ai un petit tableau comme ça où je note toutes les maladies. Comme ça, quand on va chez le médecin, parce que c'est pas forcément chez le médecin traitant, ça peut être chez SOS Médecin, on a la chance d'avoir SOS Médecin chez moi. Comme ça, le médecin voit tout de suite toutes les maladies qu'il y a eu. Comme ça revient vite, ça revient assez souvent, ça permet de voir s'ils ont eu des antibiotiques récemment ou pas, par exemple. Et ça, c'est très pratique. Même mon médecin m'a dit, ah, c'est bien cette feuille. Voilà.
Donc, tu t'es carrément fait un tableau récapitulatif par enfant, tellement
Par
ils ont
enfant.
été malades, quoi. Il y en a
Oui.
combien des lignes sur cette petite liste, juste par
Alors,
curiosité?
je ne l'ai pas sous les yeux, mais donc là, ils ont 2 ans. Déjà, il y en a une par mois, ça c'est sûr. Tous les mois, il y a quelque chose. Et chaque mois, il y a peut-être 2, 3 lignes. Ça peut être
Ah ouais,
une
donc c'est quand même beaucoup,
conjonctivite.
quoi.
La conjonctivite, le pied-main bouche, la varicelle, l'otite, le Covid. Enfin, c'est vraiment, je crois qu'on a fait à peu près tout ce qui peut exister dans les maladies infantiles.
Ouais, donc c'est vraiment beaucoup. Et du coup, quand tu vas chez le pédiatre ou chez le médecin pour une maladie, du coup, est-ce que tu vas au moment où les deux sont malades ou il y en a un qui va avoir la maladie, le médecin te donne un traitement et du coup, quand le deuxième a les mêmes symptômes, tu lui donnes automatiquement le même traitement. Comment ça se passe au niveau de ce quotidien-là?
Alors, soit j'attends que le deuxième déclare aussi la même maladie, soit si c'est une laryngite, par exemple, là, j'attends pas, je vais tout de suite chez le médecin, et je sais que l'autre va suivre après, donc je retourne chez le médecin quelques jours après avec le deuxième.
Ok.
Pendant un moment, j'y allais une fois toutes les semaines chez le médecin.
Ah ouais,
Oui.
limite t'avais ton siège
Oui.
réservé quoi.
Oui.
Et en termes de médicaments, est-ce que t'as des petites astuces pour, je sais pas mélanger les traitements si c'est pas forcément les mêmes doses ou je sais pas noter, je sais pas. Est-ce que tu t'organises d'une manière particulière pour pas t'emmêler les pinceaux entre les médicaments de chacun?
Alors c'est vrai que c'est une très grosse organisation. Quand ils sont malades tous les deux, voire tous les trois, là je suis sur pilote automatique. Je ne pense plus à rien d'autre qu'aux médicaments, l'organisation, qui doit prendre quoi et quand. Donc j'ai en fait j'ai des petites bannettes. Donc s'ils sont malades tous les deux, j'ai deux bannettes différentes. J'écris les prénoms dessus. Je mets les médicaments dedans avec l'ordonnance et je réécris sur les boîtes le prénom. Quand est-ce qu'on a commencé le traitement? Quand est-ce qu'il se termine? Après, j'essaie d'avoir les médicaments doubles s'ils doivent les prendre aussi à la MAM. Comme ça, je photocopie l'ordonnance pour la donner à la MAM avec les médicaments pour éviter les transferts de médicaments, de les oublier. Ça fait moins de choses à penser en fait si je sais qu'à la MAM, ils ont les médicaments à l'ordonnance. Et moi, à la maison, après, j'ai les petites bannettes avec les prénoms. Et puis, on essaie de ne pas oublier de donner les médicaments. En plus, j'ai un des garçons qui est allergique à la pénicilline. Donc, il ne peut pas prendre d'amoxicilline comme antibiotique. Donc, il faut faire toujours attention à ça. Ne pas mélanger les antibiotiques. Voilà. C'est vrai que c'est une organisation... c'est compliqué quand ils sont malades tous les deux. C'est fatigant, nerveusement.
Moi, j'ai l'impression qu'on a voulu te compliquer la tâche, là, quand même. Parce que déjà, bon, t'as des jumeaux, c'est pas le truc le plus facile de la Terre. En plus, ils sont malades tout le temps. En plus, il y en a un qui est allergique à un des médicaments. Et donc, du coup, il faut que tu fasses attention de surtout pas lui donner. Mm. Là, je pense que ton arrière-grand-mère serait très fière de toi. ouais, tu vois, je t'écoute et je me dis... Je parle à une héroïne cet après-midi, en fait. Voilà.
C'est gentil.
Quel est ton pire souvenir de maladie, genre chez vous?
Alors, mon pire souvenir de maladie.
T'étais là, on va pas s'en sortir.
J'hésite entre. Non, le pire c'est quand tout le monde a la gastro. Le pire, c'est quand les garçons ont eu la gastro, que le papa était parti en week-end avec la grande. On devait tous partir ensemble, mais comme les garçons commençaient à être malades, je suis restée à la maison avec les garçons. Ils ont déclaré la gastro, et là, c'était horrible. Parce que il faut les gérer, mettre des serviettes partout, parce qu'ils étaient petits, alors ils étaient encore à quatre pattes, donc ils vomissaient devant eux, par terre, enfin c'était atroce. Et puis le lendemain, c'est moi qui ai attrapé la gastro, donc là, s'occuper d'enfants quand on a soi-même la gastro, c'est très compliqué. Et puis ensuite, le papa est rentré avec la grande et ils ont eu aussi la gastro. Donc, on a passé une semaine tous malades. C'était un de mes pires souvenirs. D'avoir du mal à m'occuper des enfants parce que j'étais moi-même malade. Je préfère mille fois la grippe. Ouais.
Donc, t'en es venu à un point où t'as genre des maladies préférées, quoi. T'es genre là, ah, oh, c'est qu'un petit rhume, oui. Tout va bien, c'est une angine. On est au top.
On en est là. Oui.
Est-ce que t'aurais... Vas-y, je te laisse.
Non, j'allais dire, comme je disais, on a la chance d'avoir SOS Médecins ici, et surtout quand les enfants sont malades le week-end. Mais en ce moment, bon, on a même du mal à avoir des rendez-vous chez SOS. Et peut-être que des parents ne le savent pas, mais il existe une plateforme qui s'appelle CARE, Q-A-R-E. C'est une plateforme sur laquelle on peut prendre rendez-vous dans l'heure qui suit, souvent, avec des médecins qui sont partout en France. Et donc, on se crée un compte, c'est très rapide. On rentre des informations médicales et on choisit le médecin suivant ses tarifs, ou l'endroit où il se trouve en France, ou sa photo. Et donc, on a un rendez-vous comme ça. C'est assez pratique pour des petites maladies comme des conjonctivites, des choses comme ça. Ça permet d'avoir une ordonnance et d'aller à la pharmacie de garde sans attendre. Voilà.
Merci d'avoir partagé ça, parce que je ne connaissais pas. Du coup, c'est genre une application sur le téléphone et tu fais ta consultation en visio?
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Et du coup, c'est payant ou c'est un service gratuit? J'imagine que c'est payant, peut-être?
Alors, l'application est gratuite et le médecin est payant. On paye le médecin via l'application.
Et c'est remboursé par la Sécu comme si c'était une consultation classique de médecin?
Alors, pour que ce soit remboursé, je me souviens plus, et je crois qu'il faut imprimer un document pour l'envoyer à la Sécurité sociale.
Ok, mais c'est possible, quoi.
Oui, oui, oui. Donc,
c'est génial.
Ça peut sauver.
Merci d'avoir mentionné ça. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Merci d'avoir mentionné ça, parce que ça peut sauver plein de fois, ou même on ne trouve pas de rendez-vous chez des médecins autour de chez nous, ou on ne peut vraiment pas sortir parce que tout le monde a la gastro et vraiment aller jusqu'au médecin, ça ne va pas le faire. Donc, CARE, Q-A-R-E.
C'est ça.
Moi, j'avais une question. Est-ce que tu as développé au cours des années, du coup, tu as des compétences de médecine, toi aussi, je pense qu'on pourrait te donner le diplôme de médecin. Est-ce que tu as développé des astuces pour donner les médicaments aux enfants? Est-ce qu'il y a des médicaments que vraiment ils n'arrivaient pas à prendre ou je ne sais pas quoi, et tu t'es dit, ok, il faut que je trouve une solution parce qu'il faut absolument qu'ils prennent, et voilà ce que je vais faire. Je dis ça parce que je me souviens le tout premier Doliprane que j'avais dû donner à un de mes jumeaux qui était bébé, et ça venait en flacon Parce que j'étais en Angleterre, ils ne faisaient pas de suppositoire. Oui. Donc, ça venait en flacon avec la pipette. Et franchement, je pense qu'ils avaient genre un mois. Et je me disais, mais attends, comment je vais faire ça? Et en fait, j'avais appuyé sur la pipette et je leur en avais juste mis genre partout, mais pas dans la bouche. Et après, je m'étais dit, attends, si en fait, je leur donne une tétine de biberon et que dedans, je mets le liquide, automatiquement, ils vont téter et donc, ils vont prendre le médicament. Est-ce que tu as des petites astuces comme ça où vraiment les garçons sont là, non, franchement, je ne prends pas ce médicament, il n'est vraiment pas bon, et tu réussis quand même à leur faire prendre?
Alors oui, je pense que les parents le font, c'est mélangé dans une compote, dans le biberon. Ou alors j'avais demandé pour certains médicaments, mais je ne me souviens plus lesquels, à la pharmacie, des petites seringues pour le mettre dans la bouche, dans la joue en fait. Et il existe aussi des tétines médicaments. C'est des tétines avec un petit embout qu'on ouvre et on peut mettre du liquide dedans, refermer. Et après, l'enfant prend la tétine et ne se rend même pas compte qu'il avale le médicament. Ça peut être pratique aussi.
Mais c'est génial, ça, je ne savais même pas que ça existait. Donc, c'est comme une sucette pour dormir, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Ah ben voilà, tu vois, je pense que tu as partagé un super tips avec les gens parce que je ne savais même pas que ça existait. La personne qui a créé ça devait être un parent en galère, je pense.
Oui.
Mais c'est une super idée. Du coup, en plus, tu peux leur donner, ou si c'est des médicaments, parfois, il faut le donner toutes les 4 heures et après, ils dorment. Tu peux remplir ta sucette et hop, tu leur redonnes et ils prennent leurs médicaments tranquille.
Voilà.
Génial. Merci pour les astuces. Est-ce que tu as d'autres petits trucs comme ça à nous partager? Donc, du coup, moi, je retiens ce que tu as dit au début. Donc, s'il y a deux traitements différents ou le même traitement, mais un peu un décalé, etc. Ou un enfant qui a une allergie. Donc, chacun a son petit panier avec son prénom, son ordonnance, ses médicaments écrits sur les boîtes, etc. Mélanger les médicaments quand c'est possible avec de la nourriture. Parfois, il doit falloir faire gaffe que ça ne soit pas forcément mélangé avec du chaud, peut-être, parce que des fois, ça tue les molécules.
Oui.
Mais mélanger dans un petit yaourt, une petite compote, cette petite sucette où on peut glisser des médicaments à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire? Voilà, s'il y a des parents qui se préparent à accueillir des multiples et qui se disent, oh là là, comment on va faire une fois qu'ils vont être à la crèche, chez la nounou, etc., et qu'on va commencer les maladies, ou des parents, peut-être, là, on est au mois de janvier, qui sont en plein dedans et qui ne voient pas vraiment le bout du tunnel et qui n'espèrent qu'une chose, c'est que le printemps arrive pour que ça se calme. Est-ce que tu as d'autres petites astuces ou juste un petit mot que tu voudrais leur dire?
Alors, je leur dirais que il faut d'abord se faire confiance à son instinct, parce que la nuit où les garçons ont eu leur bronchiolite et qu'ils ont été envoyés à l'hôpital, ils toussaient beaucoup. Et je disais, mais ils vont mal, ça va pas du tout, ils n'arrivent pas à respirer. Et le papa me disait, mais non, il tousse, c'est rien, c'est une petite toux. Et je disais, non, quand même, on dirait qu'il est en train de s'étouffer. J'ai appelé SOS, mais le papa me disait, mais non, tu t'inquiètes pour rien. Et bon, au final, il nous a dit, ah oui, il faut tout de suite les emmener aux urgences, tous les deux. Donc, c'est vraiment se faire confiance. On est les mieux placés pour savoir si quelque chose ne va pas chez les enfants. Voilà, ce serait vraiment ça, si j'avais un conseil à donner.
Et du coup, toi, ta démarche, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est d'abord d'appeler SOS médecin et ensuite, si on te dit d'aller aux urgences, etc., ou tu as un réflexe quand même d'aller aux urgences directement?
Non, j'appelle d'abord SOS médecin. Alors maintenant qu'on a à peu près fait le tour de toutes les maladies, j'arrive à voir maintenant ce qui ne va pas. On a du stock de médicaments à la maison. Comme c'est souvent, nous, des laryngites, je sais que maintenant, dès qu'ils commencent à tousser en pleine nuit, il faut les mettre dans la salle de bain avec de la vapeur d'eau. On met l'eau chaude à fond dans la baignoire pendant 20 minutes, une demi-heure. Et le médecin nous avait dit que ça, c'était déjà la moitié du traitement. Leur faire respirer de la vapeur d'eau.
Okay.
Donc, je fais ça. J'attends de voir si ça se calme. On a du Célestène à la maison. Ça, je me dis qu'en fait, tous les parents devraient avoir ça au cas où à la maison, parce qu'en pleine nuit, sinon, il faut commencer à courir à la pharmacie de garde pour le trouver, ça rajoute du stress. Et puis,
Célestène, c'est un sirop pour la toux, c'est ça?
Oui, alors, c'est pas vraiment du sirop, c'est un tout petit flacon. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, c'est pour désinflammer le larynx. Et en fait, c'est des petites gouttes qu'on donne, mais il faut surtout pas en donner si l'enfant a de la fièvre. Ça se donne pas n'importe comment, c'est sur avis médical.
D'accord. Ok, bah tu vois, je ne connaissais pas, du coup, je vais me renseigner. Une petite question encore, est-ce qu'il y a des signes qui, chez toi, ne trompent pas? C'est-à-dire, tu vois ces deux, trois signes et tu te dis, ok, là, il faut absolument qu'on prenne une consultation avec un médecin. Enfin, est-ce qu'il y a des petits moments où tu sais que ça va arriver, quoi, les premiers signes, et tu te dis, OK, là, on s'embarque dans une laryngite, ou là, on s'embarque dans je ne sais pas quoi.
Oui, oui, maintenant, dès qu'il commence à tousser, je sais que c'est parti pour la laryngite. Je sais que ça va aller ça va pas aller en s'arrangeant et que ça va se développer la nuit. Donc, dès qu'il commence à tousser, en général, maintenant, je prends rendez-vous chez le médecin. Et puis, pas forcément le jour même, hein, j'attends pour la semaine suivante. Et je sais que le rendez-vous va servir à soigner la laryngite. Donc, dès qu'il commence à tousser, c'est toujours une laryngite. Donc, maintenant, on sait. Bon.
Et tout à l'heure, je te demandais quelle était ta pire maladie. Donc, tu m'as dit la gastro, parce que si tout le monde se retrouve avec la gastro à la maison, c'est l'enfer. Est-ce que tu as une maladie préférée? Ou genre, ils sont malades et tu dis non, mais ça, franchement, ça va aller facile.
Bah, un petit rhume, ça va. Conjonctivite, c'est voilà, avec des gouttes antibiotiques, ça passe rapidement. Après, parfois, ils ont de la fièvre inexpliquée. Souvent, c'est à cause des dents. Quand les dents sortent, de la fièvre, les fesses rouges, voilà, ça, je me dis, ça, c'est facile.
Ça va, je gère.
Non, c'est pas en pleine nuit, ça va.
Ouais. Et du coup, c'est intéressant, tiens, par rapport au sommeil, est-ce que tu as des petites astuces pour aider des enfants à mieux dormir quand ils sont malades? Souvent, c'est le gros, je sais pas, moi, c'est le gros truc quand je me dis ils sont malades. Le premier truc que je me dis, c'est « Oh, ils vont mal dormir ». Donc, j'avais essayé, je pense, le classique, l'oignon sous le lit, mettre un humidificateur pour faire de la vapeur d'eau, ou mettre un deuxième coussin. Est-ce que tu as des petites astuces comme ça, ou pour toi, c'est un signe, c'est genre « Ils sont malades, alors on change la façon dont ils dorment ou leur routine pour qu'ils dorment mieux. » Est-ce que tu as des petites astuces?
Alors comme toi, j'ai essayé l'oignon, mais à part l'odeur atroce, ça n'a pas fait grand-chose. L'humidificateur, on le met de temps en temps, mais je suis pas convaincue. Relever le matelas, depuis qu'ils ont 6 mois, on met toujours un petit plan incliné sous la tête. Donc ils ont toujours ça en permanence. Ce qu'on fait, que le médecin nous avait conseillé, c'est de nettoyer le nez systématiquement avec du sérum Fi, matin et soir. Surtout le soir en rentrant de la MAM, en fait, pour enlever pour nettoyer le nez, en fait, de ce qu'ils auraient pu attraper dans la journée. Donc ça, bien nettoyer le nez.
Même s'ils ne sont pas malades, tu veux dire?
Oui,
ou
voilà.
Que quand ils sont malades. Même quand ils ne sont pas malades, ok.
Une pipette matin et soir. On ne le fait pas tout le temps, mais c'est vrai que dès qu'ils commencent à être un petit peu enrhumés ou quoi, hop, on se sert du sérum Fi. Sinon, peut-être parfois on met une turbulette un peu plus légère pour ne pas qu'ils aient trop chaud. Voilà. Et puis si vraiment ils ont du mal à dormir, on a un lit parapluie dans notre chambre et ça les rassure parfois de savoir qu'on est juste à côté. Donc on en met un avec nous et puis l'autre dans sa chambre.
Et est-ce que ça t'arrive de les séparer pour que justement, je sais pas, s'il y en a un qui tousse beaucoup, ben qui passe pas sa nuit à réveiller l'autre qui lui ne tousse pas encore?
Oui, ouais. Voilà, on prend celui qui tousse avec nous. Et puis, on laisse l'autre dormir dans sa chambre. Bon, après, on a de la chance parce qu'ils ne se réveillent pas trop l'un l'autre pour l'instant.
Et est-ce que tu as des produits phares? Donc moi, par exemple, je sais que dès que je vois un nez qui coule ou j'entends quelqu'un tousser, je leur mets du Vicks, 3 tonnes de Vicks partout. Est-ce que tu as un petit produit phare comme ça, je ne sais pas, un truc d'aromathérapie ou n'importe quoi, que tu te dis, c'est ton arme secrète que tu sors à chaque fois, tu ne sais même pas si ça marche, mais tu le fais quand même au cas où?
Alors, non, on se sert pas de Vicks ou de produits comme ça. Enfin, c'est vraiment le sérum Fi, en fait, je trouve.
Ok.
On m'a parlé faudrait qu'on trouve ça, une très grosse seringue qu'on peut trouver à la pharmacie pour mettre alors du sérum Fi, ou alors tout simplement, on m'avait dit de l'eau avec du sel. Le médecin nous avait dit ça, de l'eau avec du sel. On met ça dans une grosse seringue, on met l'enfant assis et on met d'un coup la seringue dans une narine et tout ressort par l'autre. Et ça, il faudrait qu'on teste parce qu'apparemment, c'est très efficace.
Bah, c'est drôle parce que j'avais cette discussion avec des copines hier qui, elles, ont des petits bébés. Moi, les miens sont grands maintenant. Mmh. Et elles disaient qu'elles avaient testé ça et que par rapport aux mouches bébés, c'était juste incroyable. Ah. Et qu'effectivement, tu t'appuyais sur ta seringue dans une narine et tu voyais tout qui sortait de l'autre narine. Ouais. Et qu'en termes de sensation pour les enfants, ça faisait un peu comme si tu fais une roulade sous l'eau et que tu oublies de te boucher le nez. tu vois, la sensation horrible, mais que visiblement les enfants s'adaptent assez vite. Donc,
ça a l'air impressionnant.
Ça a l'air impressionnant, mais oui. Du coup, bon, si ça marche et que il y avait deux enfants différents, deux mamans différentes, elle disait les deux, il n'y en a aucun qui dit rien. Bon, si ça marche, pourquoi pas. Mais ok, et en tout cas, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir passé, de nous avoir donné plein d'astuces pour survivre à ces périodes des maladies infantiles qui sont pas toujours drôles, on n'en voit pas toujours la fin. Est-ce que tu vois des améliorations par rapport à la saison parfois où tu te dis ok, là c'est printemps-été, on est tranquille, et ensuite hop, en octobre on renchaîne sur 9 mois de couloir de la mort?
Alors j'y ai cru l'année dernière, on me disait c'est bientôt fini l'hiver, après on m'a dit ah oui c'est normal, c'est les virus de printemps. Après, ah oui, bah l'été maintenant, oui, l'été, il y a la bronchiolite, il y a les bronchites, même des gastro l'été. Donc, maintenant, je ne me fie plus aux saisons. Je me dis, bon, ils vont être malades tout le temps. Mais je trouve que là, ils viennent d'avoir 2 ans et je touche du bois, beaucoup de bois. Mais ça fait quelques semaines que c'est mieux. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça, qu'ils commencent à grandir et à s'immuniser. Mais ça fait quelques semaines que c'est mieux. Voilà, 2 ans.
Ok. Donc, pas forcément d'amélioration sur les saisons, mais plutôt sur l'âge. Au bout d'un moment, ils ont fait un petit peu leur système immunitaire. Donc, ils tomberont quand même malades, mais beaucoup moins souvent. Mm. Ou peut-être beaucoup moins, les maladies seront moins virulentes. Donc, il y a quand même de l'espoir, quoi. C'est un message d'espoir que tu nous délivres aujourd'hui, Lou.
Tout à fait.
Merci. Parce que je pense que ta vie n'a pas été tout le temps facile avec toutes ces maladies. C'est vrai que moi, j'y repense et je me dis, oh, bah, à part avoir eu 2 petits rhumes par an ou un truc comme ça, on n'a pas eu grand-chose et je touche du bois aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu la loterie, comme tu disais, ta fille qui, elle, n'attrape pas grand-chose et tes garçons qui font que se refiler les maladies les uns les autres. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de partager toutes ces astuces-là. Je suis sûre que ça sera super utile pour tous les parents qui se préparent à avoir des multiples ou qui ont déjà des multiples et sont en train de se dire « moi aussi, je n'ai pas dormi cette nuit parce que tout le monde toussait ». Je te souhaite une super après-midi et merci encore d'avoir pris le temps de partager ton histoire.
Merci à toi, au revoir.
J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser plein de petites étoiles ou des commentaires. Si vous êtes vous-même parent de multiples et que vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon Instagram Kids and Company. Et à bientôt pour un nouvel épisode.